9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS, ça veut dire à votre santé, bonjour. Je suis très content de vous retrouver, je suis content de retrouver Nadia Elbouga. Bonjour Nadia.
Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous.
Voilà, sage-femme et sexologue clinicienne. Mm-hmm. Je vous laisse présenter notre invitée ce matin, Nadia.
Oui, bonjour Céline Tran.
Bonjour.
Alors Céline, vous êtes auteur, autrice, diront certains.
Je ne vais pas chipoter là-dessus.
Et co-directrice d'une collection. Vous êtes également scénariste de bande dessinée, blogueuse, donc actrice et anciennement actrice, alors actrice, ouais. Actrice générale, ouais. Si on peut dire ça comme ça, et anciennement donc actrice dans l'industrie pornographique de 2001 à 2013, sous donc le fameux pseudonyme Katsuni. Et vous êtes également coach sexuel, mais vous préférez vous définir comme ninja. Alors, ninja.
Ça regroupe tout en fait. Ninja, mais, c'est pratique.
Oui, alors quand vous dites que vous êtes ninja.
Chez moi, c'est des chaussures. Hein.
Ah bon?
De chez Nike, oui.
Ah bon?
Les ninjas.
Ah, chacun ses références.
Ah oui, bah alors je connais pas
pardon,
du tout.
Pardon.
Non, bah non, moi, j'ai une culture de films d'arts martiaux.
De manga.
Et donc, voilà, de manga, oui. Génération Club Dorothée. Donc, le ninja, c'est un peu le guerrier de l'ombre.
Oui, alors justement, si vous êtes ninja, qui sont les samouraïs?
Ah! Ah ouais, samouraï, c'est encore un autre code d'honneur, mais là, on va partir dans un récit bien différent.
Vous savez que les samouraïs, par rapport aux ninjas, considèrent que les ninjas déshonorent.
Ah oui, oui, oui. Non, mais là, c'est vraiment un terme, alors c'est pas au sens, comment dire...
Étymologique.
Oui, c'est plus parce qu'en fait, j'ai créé un blog... après avoir été ma carrière dans l'UX, donc c'était en 2013, pardon. J'ai créé un blog pour expliquer un peu mes activités, sachant que j'ai beaucoup exploré et comme de l'extérieur ça paraissait peut-être un petit peu chaotique, je me suis dit j'ai tout rassemblé dans un blog qui s'appelle Ma vie de ninja, ce qui sous-entend plus le côté, bon il y a le côté arts martiaux, il y a le côté enfantin aussi, donc voilà, ça reste très léger, je me considère pas comme une ninja au sens fort du terme, je ne suis pas une tueuse.
Alors, vous êtes née d'un père vietnamien et d'une mère française.
Oui.
Et vous avez écrit le livre Ne dis pas que tu aimes ça.
Oui.
Aux éditions Fayard, où vous racontez justement qu'après le bac, vous envisagiez de faire hypocagne, mais sur les conseils appuyés et
c'était plus que des conseils.
Voilà. Et même les injonctions de vos parents, notamment de votre père, vous intégrez finalement Sciences Po.
Ouais.
Je
m'y ennuie beaucoup, même si je reconnais que c'est un enseignement très intéressant. Mais c'est quand on
et vous vous plantez à
quand
son
on ne fait pas un choix. Bah ouais, je le fais un
alors
peu volontairement.
Vous êtes une très bonne élève.
Je passe beaucoup de temps à dessiner parce qu'en fait, moi, c'était soit Hippocagne, soit les Beaux-Arts. Hein. J'étais quand même une grande rêveuse, sans stratégie, sans. Enfin, je peux comprendre aussi que mes parents aient fait ce choix pour moi puisque c'était le choix de la raison et j'étais tout sauf raisonnable. Donc je peux pas leur en vouloir, c'était un très bon choix, mais c'est vrai que je suis de nature à ne... Je ne peux pas me forcer à faire quelque chose qui ne m'intéresse pas, c'est juste impossible, et quitte à faire n'importe quoi, je préfère le faire pleinement. Donc je me suis un peu tiré moi-même une balle dans le pied pour ne pas poursuivre ma voie à Sciences Po. J'ai fini par me rediriger vers les lettres modernes et au départ, j'étais très contente. Mais en fait, très vite, je me suis dit que j'avais rien à y faire parce qu'on peut très bien aimer la littérature. C'est pas pour autant qu'on a envie de devenir enseignant et intégrer à nouveau un système finalement que je n'aimais pas moi-même. Donc, je me suis retrouvée un peu désemparée en me disant « mais qu'est-ce que je vais faire ?» Par contre, je sentais qu'il me fallait expérimenter et sortir du cadre qu'on m'avait donné jusqu'à présent.
Et là, justement, lors d'une soirée, durant cette fameuse année Sciences Po qui vous ennuyait à mourir, vous rencontrez Stella, une vocal danseuse, dans un club.
Dans une soirée en discothèque, sachant que j'ai jamais aimé les discothèques, mais j'y ai bossé plus de 10 ans. C'est un peu le comble. Oui, en fait, ça m'a fascinée parce que je fais partie des gens qui restent assis dans les soirées. Il y a tous ceux qui dansent, qui boivent. Moi, je respire un verre de vin, je suis déjà bourrée, donc ça reste très limité. Et je me suis mise à observer cette go-go danseuse qui était très sexy et qui surtout semblait s'amuser dans ce qu'elle faisait. Mmh. Et pour moi, c'était juste inacceptable. Parce que forcément, j'étais avec ma jalousie, avec mes préjugés et même une certaine méchanceté qui très, très vite consiste à penser elle se respecte pas. Bref.
Avec le fameux étiquetage.
Voilà. Et au bout d'un moment, j'ai quand même dû admettre qu'il y avait quelque chose qui me faisait envie chez cette femme. Et c'était pas vraiment le fait qu'elle s'exhibe ou qu'elle danse en boîte, puisque j'aimais même pas les boîtes. Mmh. Mais c'était le fait qu'elle s'autorise à le faire et qu'elle prenne du plaisir à faire ça. Et là, je me suis dit quand même, je m'autorise à la critiquer, mais finalement, est-ce que je serais capable de faire la même chose? Et donc, je suis lancée un défi personnel. Au départ, c'était vraiment un jeu. Mmh. Et je fonctionne beaucoup comme ça. J'aime bien aller là où je vais avoir de la difficulté. Mmh. Ça peut mener très loin, cette histoire.
Oui, et souvent, et vous vous arrangez toujours pour devenir la meilleure. Souvent.
Oui.
En tout cas, de devenir excellente dans ce que vous faites.
Oui, en tout cas, j'aime aller loin dans ce que je fais et dans tout ce que je fais, c'est vrai que c'est comme ça que je fonctionne, parce que j'ai besoin de comprendre les mécanismes. J'ai besoin d'expérimenter les choses à fond pour pouvoir les vivre pleinement et m'exprimer ensuite avec, de me les réapproprier en fait à ma manière. Donc je me suis retrouvée finalement à être go-go danseuse, à faire du striptease alors que je m'étais jurée de ne jamais me dénuder. Mais quand on se prend au jeu, c'est vrai qu'on peut aller loin. Et puis il y avait toujours beaucoup de dérision, parce qu'au départ c'était pas censé être une carrière. C'était une deuxième vie en parallèle de ma vie d'étudiante. Et c'est vrai que ce côté transgressif pour moi, qui avait une éducation assez étriquée, c'était stimulant.
Est-ce que si vos parents vous avaient laissé continuer dans le karaté à l'époque où vous aimiez ça?
Oh, quelle question.
Non mais parce que finalement pour moi tout part d'un refus.
Oui.
Vous voyez, finalement, vous auriez été une très, très grande karatéka. Et ça, c'est quelque chose que votre père ne vous a pas permis.
Il ne l'a pas compris, ouais. Et là, c'était une grosse erreur. Mais encore une fois, il pensait faire bien. Je l'ai compris bien plus tard. Mais effectivement...
Mais il vous a dit non.
Vous avez raison. En plus, c'était un non silencieux.
Ouais,
c'était très humiliant. Sachant que, ayant été... Alors, j'ai eu une enfance, une adolescence gâtée.
Choyée, vous étiez surprotégée même.
Vraiment, ouais, j'ai vraiment grandi dans une bulle... avec tout ce dont j'avais besoin, sauf la possibilité de m'exprimer, de m'émanciper. Et devenir adulte, au bout d'un moment, c'est prendre ses propres risques, c'est se confronter à des échecs, c'est grandir avec ça. Et en fait, ils ont tellement voulu me protéger que finalement, ils ont fait des choix à ma place. Et ça a fait un effet de pardon, de cocotte minute quand je me suis retrouvée étudiante. Mais effectivement, au moment où j'ai eu cette opportunité de me lancer dans la compétition à karaté, pour moi, c'était énorme. À ma petite échelle, pour une adolescente introvertie, d'un seul coup, c'est on me donne une responsabilité. J'ai la possibilité de devenir bonne dans quelque chose et d'utiliser mon corps aussi. Et comme j'étais quelqu'un de très mental, hop, on me retire ça. Et alors là, ça a été une première rupture avec mes parents. Ils s'en sont pas rendus compte.
Mais d'ailleurs, le karaté illustre cette histoire que vous avez avec vos parents. Parce que d'abord, quand vous décidez de faire du karaté, déjà...
C'est pas pour les filles.
C'est pas pour les filles. On vous dit que c'est pas pour les filles. Donc, vous insistez.
Ouais.
Et vous finissez par donc aller faire du karaté. Et ensuite, au moment où on vous demande d'être la représentante de l'école, là, c'est votre père qui dit non.
Ouais. Bah oui, parce que c'est une menace par rapport aux études. Ce qui, dans l'absolu, n'est pas faux. Mais moi, à ce moment-là, j'ai une énergie qui est énorme, qui est à ma disposition. On m'empêche de l'utiliser. Donc forcément, à ce moment-là, je perds confiance. Le lien avec les parents est perdu à ce moment-là. Et donc, quels que soient les conseils qu'ils vont me donner ensuite, ça va forcément, je ne vais pas les accueillir, puisque je me dis, bon, finalement, ils ne m'entendent pas.
C'est vrai qu'on a beaucoup de parents qui nous écoutent et qui parfois ne savent pas toujours comment...
Mais qui pensent bien faire. Ou
placer le curseur.
Oui, et puis il se trouve que j'ai aussi un caractère qui fait que voilà, j'ai deux frères, ça s'est plutôt bien passé. Ils ont suivi le cursus, ils ont un très bon boulot. Mais c'est vrai que moi, j'ai une tête dure. En fait, j'ai un peu hérité du caractère de mon père. Ma mère aussi, parfois, lui dit « Oh mais oui, mais tu sais, finalement, elle est comme toi. Hein. » C'est le pauvre. C'est vrai que j'ai... C'est quelqu'un de très déterminé, qui fonce, et pas de bol, moi je suis pareil.
Est-ce que votre livre, Ne dis pas que tu aimes ça, c'est un livre de développement personnel?
Oui, c'est un comment dire, c'est un récit de chemin initiatique. Même si c'est très résumé, parce que le contrat m'a limité à 250 pages. Moi, au départ, j'en avais écrit 650, donc ça m'a fait beaucoup de bien, ceci dit. Bon, c'était trop long aussi. Mais je tenais à parler à la première personne, déjà à l'écrire, parce que le processus d'écriture est hyper important, de revivre moi-même mon parcours, de faire le tri. Donc c'était vraiment thérapeutique comme processus. Et au départ, c'était censé être écrit sous forme de journal. D'ailleurs, j'ai tenu un journal de mes 11 ans à 21 ans. Donc j'ai relu tout ce que j'avais écrit pour me...
C'est pratique.
Pour vous réimprégner de certains.
Et donc l'idée, effectivement, c'est, même si le porno a une grande place dans ma vie, ça n'a été qu'un moyen de se découvrir, pas une fin en soi. Et aujourd'hui, alors que j'ai arrêté, c'est encore plus évident. Pour moi, c'était un échauffement, finalement. Et c'était super à vivre, avec les bons et les mauvais côtés, parce que je dis pas que tout était parfait et facile, mais c'est encore plus de sens aujourd'hui. Et alors que lorsque je me suis lancée dans l'UX, je ne voulais pas qu'il y ait de sens. C'est un peu le principe de la jeunesse, l'insouciance, quand on a été en particulier dans une éducation avec beaucoup de règles. Mais tout ce qu'on veut, c'est justement c'est transgresser et ne pas se justifier.
C'est casser ces règles-là et en fait vaquer sur son chemin.
Ouais, sans penser aux conséquences. Donc effectivement, il y a un aspect dangereux, sans doute irresponsable, sans doute égoïste. Mais j'avais besoin de passer par ça pour m'affranchir et ensuite revenir à mes valeurs, revenir aux
arts martiaux.
Et d'ailleurs j'ai repris le karaté.
Ben oui, c'est ça. En fait,
j'ai retrouvé mes anciens profs.
Vous revenez à l'endroit où on vous avait laissé, finalement.
Ouais. C'est un peu le. Mais
c'est,
on retrouve
c'est un boomerang.
Tous les chemins initiatiques. On revient toujours à la terre, aux origines. Il faut savoir partir. Il faut savoir couper le lien avec les parents.
Pour mieux revenir.
Pour revenir, et effectivement, et maintenant je les ai vraiment retrouvés, et on s'aime, même si on ne se comprend toujours pas. c'est comme ça, mais en même temps, c'est ça l'amour. C'est comme ça, on est très différents.
C'est quoi votre définition de l'amour ?
La définition de l'amour, c'est l'acceptation, je dirais.
L'acceptation de quoi ?
L'acceptation...
De l'autre dans sa différence,
l'acceptation. Parce que c'est vrai qu'on va parler après des nuances, l'amour physique, l'amour familial. Non, en fait, je pense qu'il y a qu'un seul amour. Après, il y a plein de déclinaisons dans la manière de l'exprimer. Mais en fait, l'amour, c'est juste le accueillir.
Céline Tran est notre invitée aujourd'hui jusqu'à 10h. Votre livre s'appelle, Nadia, vous le montrez à la caméra puisque l'émission est filmée, Ne dis pas que tu aimes ça, et c'est chez Fayard.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, nous avons invité Céline Tran aujourd'hui, qui publie Ne dis pas que tu aimes ça chez Fayard. Bon, voilà, c'est une partie de votre vie. J'imagine que l'éditeur a gardé la partie qui pensait qu'il se vendrait le mieux.
Toutes les parties les plus croustillantes sont encore dans mes tiroirs.
C'est vrai ?
Parce qu'il y a encore plus croustillant.
Plein d'anecdotes que je garde pour des scénars, de BD, de films. Il y a beaucoup de matière encore.
Les BD, d'ailleurs, c'est vous qui dessinez ? C'est vous l'illustratrice ?
Alors, je dessine pas, j'écris.
D'accord.
En fait, je suis directrice d'une collection chez Glénat, une collection pour adultes où on parle de sexualité aussi, avec humour, ça dépend. En fait, c'est assez varié. Et en tant que scénariste, du coup, c'est un travail d'écriture. Mais il n'est pas dit qu'un jour, je n'essaye pas le dessin, attention. Parce que c'est très frustrant de ne pas pouvoir s'exprimer aussi par le dessin, mais c'est un métier à part entière.
Ça aussi, c'est génial dans votre parcours, parce qu'en fait, vous avez décidé finalement... de tout vous autoriser, dans le sens où, surtout en France, on est très cadré dans les cursus.
On aime bien les étiquettes.
Vous passez partout. Vous avez fait l'école du cirque, l'illustration,
le combat scénique,
les arts martiaux. Vous êtes également coach sexuel, donc vous êtes formé, vous avez fait de l'hypnose ericksonienne.
Ouais, du massage, bien-être. Je précise bien-être parce que le massage, ça peut être...
Oui, effectivement.
Et d'ailleurs, oui, c'est vrai, le massage bien-être, au départ, c'est toujours ça. Mmh. Finalement, j'apprends toujours les choses pour moi, de la même manière que le porno, c'était pour moi. C'était pas du tout pour devenir connue, faire de l'argent. C'était vraiment une expérience personnelle. Mais en fait, je m'investis tellement qu'au bout d'un moment, ça devient une évidence de le transformer en une activité professionnelle. Et c'est vrai que pour le massage, au départ, j'avais une réserve. Je me disais, là, quand même, là, je cherche les problèmes avec mon passif. Bon, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de proposer du massage ? Au départ, je me disais, bon, je ne vais masser que les femmes. Et au bout d'un moment, je me suis dit, oh puis merde, moi j'aime masser tout le monde. Pourquoi est-ce que je me priverais de ça ? Et puis, ce sont des connaissances qui sont... au contraire, le but c'est d'apporter justement un meilleur être aux gens. Donc pourquoi faire une forme de discrimination et en fait, quand on se libère de nos peurs, on arrête de les projeter sur les autres et ça se passe très bien. À partir du moment où on est clair quand même. Donc je pose toujours un cadre très
cadre
clair.
Pour pouvoir vous retrouver aussi sécurisé dans...
Oui, mais c'est très reposant. Mmh. Et j'ai effectivement des clients qui me disent, qui m'avouent avoir des fantasmes, des attentes, mais on en parle tranquillement et tout va bien. Mmh. Et en fait, ça désamorce les choses. Et moi, j'en veux pas aux personnes d'avoir parfois certaines attentes. Mmh. Mais c'est à moi aussi d'être claire dans ce que je propose.
Si on parle de votre légende personnelle, quelle version de vous-même, la hardeuse, était-elle ? C'était quelle version de vous-même dans votre légende personnelle ?
Ah, j'aime bien ce terme, légende personnelle. C'est l'alchimiste. C'est l'alchimiste que je pensais en termes de récit initiatique.
Moi aussi. Vous voyez, comme quoi...
Le retour à la Terre. Le trésor est sous ses pieds. En soi. La version de moi-même, c'est la version Catwoman. Parce que, en fait, moi, quand j'ai commencé, il y avait ce côté... je rêve d'être une super héroïne, super sexy. Ça, c'est le fantasme de l'adolescente coincée.
Que tout le monde regarde, que tout le monde admire.
Mais c'est version Halle Berry.
Incarné par Michel Pfeiffer. Michel Pfeiffer, moi.
Parce qu'il y a les deux, il y a Michel Pfeiffer et Halle Berry.
Halle Berry est un gros navet.
Donc c'est la version Michel Pfeiffer.
Michel Pfeiffer. Et j'adorais le fait qu'elle ait ce côté presque gourde dans la vie de tous les jours, avec ses grosses lunettes. Et arrivée la nuit, elle se transformait en une vampe vraiment très dominatrice, avec beaucoup de pouvoir. Donc forcément, pour moi, la hardeuse, c'était ça. C'était l'incarnation de la femme qui s'autorise tout, qui peut avoir un côté effrayant. Mais forcément, c'est rassurant d'effrayer les autres. Maintenant, j'ai plus besoin de ça. Mais à ce moment-là, moi, ça me rassurait.
C'était votre uniforme, en fait.
Oui, c'est ça. Et quand je l'ai retiré, je me suis remise à flipper. Et là, je me suis rendu compte que
j'avais encore du boulot. Vous êtes revenue à 14 ans, ouais, à l'ado.
À 21 ans. Ouais. En fait, quand j'ai arrêté le X, je me suis retrouvée un peu bête parce que je me suis dit, mince alors, maintenant que j'arrête les tournages, je me rends compte que je reviens émotionnellement à mes 21 ans, donc l'âge où j'avais commencé les films. Et là, c'est la panique totale parce que d'un seul coup, je me dis, mais en fait, je ne sais pas du tout séduire un homme. Et comment je suis censée me comporter dans l'intimité ? Je ne sais pas faire.
D'ailleurs, il y a une phrase de votre livre où vous dites que... Substance, là, je l'avais reprise, mais je ne la retrouve pas. Où vous dites que vous êtes plus à l'aise... vous étiez plus à l'aise en studio avec des hardeurs que seule dans une chambre avec un homme.
Oui, en fait, pour beaucoup de gens, c'est plutôt l'inverse. Mais pour moi, c'était rassurant d'être sur un tournage. En précisant que j'ai eu la chance, mais j'ai aussi fait ce choix-là, de travailler dans de très bonnes conditions. Et bien sûr qu'un tournage, c'est rassurant puisque ça donne un cadre. On sait que de telle heure à telle heure, on sera avec telle personne, qu'on va faire telle chose.
Tous les tournages que vous racontez dans votre livre n'étaient pas tous rassurants.
C'est vrai.
Mais la plupart du temps, c'est rassurant.
Vrai, bien sûr, c'était important aussi que je parle de certaines dérives, puisqu'elles existent. Mais il y avait cette notion de jeu. C'est de telle heure à telle heure, j'ai aussi l'autorisation de switcher. Et d'aller très loin dans ma sexualité, puisque de toute manière, c'est mon personnage, c'est mon métier. Et pour moi, c'était plus facile, parce que c'est une excuse aussi. Alors que lorsqu'on est dans l'intimité d'une chambre, Et je le vois aussi parmi les hommes, les femmes que je reçois en séance, bien souvent, ce qui revient, c'est « je comprends pas, j'ai aucun problème pour un plan cul, pour une aventure, mais alors elle me plaît, elle est trop belle, ou alors je comprends pas, avec mon petit ami, mon mari, j'ai beaucoup plus de difficultés à lâcher prise. C'est quand il y a un enjeu émotionnel, on flippe. On a peur d'être jugé, on a peur d'être rejeté. Mais quand c'est dans le cadre du boulot, allez,
c'est... On a peur aussi d'être vu comme on est.
Oui, réellement. Mais moi, je pensais pas, je regardais pas mes scènes, par exemple. Je pensais pas au rendu. Je pensais vraiment à l'expérience du moment, à l'énergie que j'allais donner. Et c'était de l'instantané. C'était pas, je pensais pas du tout à l'exploitation ensuite des vidéos. Et quand j'ai commencé, par contre, à me poser la question, c'est effectivement là que j'ai, ça a commencé à me pousser vers la sortie, puisque avec l'avènement d'Internet et les sites gratuits, au bout d'un moment, j'ai dû admettre que ça me convenait pas, quoi, de retrouver mes scènes comme ça gratuitement à la vue de tout le monde, c'était pas...
Et surtout des enfants.
Voilà, ça c'est un vrai problème. Hein. Moi, j'ai jamais fait de... Enfin, ça peut paraître bête comme phrase, mais je pense que c'est important de le dire. J'ai jamais fait de film porno en espérant qu'un jour des enfants puissent les voir.
On appelait ça avant du cinéma pour adultes.
C'est ça. Ouais. C'est pas fait pour les enfants. C'est tout simplement c'est un divertissement pour adultes.
Et on parlait d'amour tout à l'heure. C'est d'ailleurs l'amour qui vous a... comment dirais-je, qui vous a décidé,
ça a été un gros déclic.
À arrêter
Ça a été une bonne grosse baffe. je suis tombée follement amoureuse, mais d'un hardeur, donc mauvaise
pioche. D'un collègue de bureau.
Oui. Ouais, exactement.
De John.
Et en plus, il fallait que ça tombe sur le numéro 1, donc vraiment le... Mais c'était très beau, très passionnel, mais aussi très fusionnel. Or, être fusionnel quand on fait du X, c'est pas viable. Moi, je suis quelqu'un de très romantique. Et quand je suis amoureuse, en tout cas là, c'était le cas, je deviens exclusive. Et donc, d'un seul coup, c'était l'enfer. J'avais plus du tout envie d'être touchée par les autres acteurs. Évidemment que je n'avais pas envie qu'il en touche d'autres, et c'est juste incompatible à ce moment-là. Lui, c'était sa vocation, d'ailleurs il continue de tourner, et moi à ce moment-là j'ai compris que je ne pouvais plus, parce que d'un seul coup ma sexualité prenait un sens. En plus, il y a eu un désir de maternité, donc là ça a été un énorme réveil, et ça a été douloureux, mais ça a été très sain finalement. Entre ça et le constat que l'industrie avait changé, que finalement j'étais dans une forme une mécanique de répétition, parce que voilà, c'est industrialisé, au bout d'un moment c'est plus drôle. Et puis plus on prend de l'expérience dans ce métier, et moins on accepte qu'un réel vous dise quoi faire, en fait. Au bout d'un moment, je me suis juste souvenue pourquoi j'avais fait ce choix-là. Et le choix, c'était de s'exprimer, d'apprendre à se découvrir. Au bout de 13 ans, je me suis dit, je crois que j'ai plus rien à apprendre de ce boulot. Si je reste, je me perds.
Oui. Et vous dites aussi que votre corps était votre outil de travail. Donc, pour le coup, il y avait quand même une certaine dissociation.
Oui.
Céline n'était pas
complètement
unie.
Ouais, bien sûr. C'était une partie de moi, mais oui, bien sûr, il y a une dissociation. Mais je pense que c'est le cas de toutes les personnes qui travaillent avec leur corps. J'accompagne des sportifs de haut niveau aujourd'hui. Quand on fait du sport de haut niveau, franchement, on le fait pas pour être en bonne santé. On cherche la perf, la limite. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui va motiver? C'est l'objectif final, c'est le dépassement. Donc il y a forcément quelque chose d'un peu dangereux là-dedans. Mais pour exceller, ou en tout cas pour aller loin, c'est presque une nécessité, quoi. Donc il y a quelque chose de beau et en même temps quelque chose aussi de dangereux là-dedans.
On va parler d'étiquettes, finalement. Les étiquettes, c'est sur les vêtements, mais finalement...
Elles se coupent, vous dites qu'elles se coupent d'ailleurs dans l'un de vos TEDx.
Oui, j'adore les étiquettes françaises.
Et alors, en France, les étiquettes, on les garde quand même beaucoup. Il y a des pays où on peut finalement changer de vie assez facilement. Et on respecte d'ailleurs aux États-Unis, c'est le succès qui fait de vous qu'on valorise.
Plus on est audacieux et plus on est...
On va valoriser ça. En France, c'est compliqué parce que vous pouvez rester ce que vous avez été. Aujourd'hui, comment est-ce que... Parce que Nadia a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Elle a dit actrice conventionnelle. Par exemple, les hardeuses qui font du cinéma, c'est
certains
pas des...
diront traditionnelles.
Mais c'est pas des actrices. Est-ce que c'est du cinéma ou pas?
Pour moi, non. C'est... Alors, ça l'était dans les années 70. D'ailleurs, c'était fait par des gens du cinéma. Mais aujourd'hui, on est dans du contenu web. Donc, c'est du produit de consommation.
D'accord.
C'est
donc
de la vidéo.
Donc, elle joue pas.
Ouais, ouais. Maintenant, il y a, si on cherche, il y a du porno de qualité avec une fibre artistique. Ça existe. En fait, le problème, c'est que dans le mot porno, on ne voit que l'image des vidéos hard sur les sites gratuits. Mais finalement, le porno, c'est extrêmement riche. Donc oui, dans la pornographie, il y a des objets artistiques. Mais il y a aussi essentiellement une industrie qui, elle, est plus de l'ordre du fast-food, du sexe, quoi.
Et aujourd'hui, en quoi cette étiquette de hardeuse, elle vous détermine encore ou pas?
Elle me détermine pas du tout.
C'est ça. Donc.
Enfin, aux yeux de certaines personnes, probablement, mais je m'en fous. Enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est que
vous avez décidé qu'elle ne vous déterminerait pas.
Bah, en fait, moi, ce qui m'importe, c'est comment moi je me vois finalement. Si je me laisse enfermer par la perception des autres, mais il y a de quoi devenir fou. Je vais pas faire un sondage tous les matins pour. Alors, comment me voyez-vous aujourd'hui? Alors, vous êtes à 70% à me dire que. Non, je pense que ce qui est important, c'est le regard qu'on se porte à soi. Mais ce regard, justement, c'est un peu vicieux, parce que si justement on prend trop en compte ce fameux poids des étiquettes, le regard des autres, on finit par l'intégrer. C'est comme lorsqu'on projette les peurs sur les autres et qu'on.
Ce qu'on disait tout à l'heure.
Et on s'enferme tout seul. Et finalement, il y a des personnes qui, enfin, moi, je l'ai fait aussi à un moment donné durant ma carrière, à être presque parano, à me marginaliser en me disant, je peux pas faire ça, je peux pas aller, par exemple, dans une salle de sport à Paris, parce qu'on va me reconnaître, parce qu'on va me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Et je culpabilisais à l'avance. Au bout d'un an, mais c'est terrible. Et puis finalement, ça va, en fait. Ça va. Et quand ça va pour soi, ça rassure aussi les autres.
Mais est-ce que vous auriez été déçu de pas être reconnu?
Ah non, mais moi, je cherche pas à être reconnu.
Quand je dis reconnu, c'est que les gens.
Mais d'ailleurs, quand vous avez intégré l'industrie pornographique, c'était absolument pas pour être reconnu.
Non, mais moi, enfin.
Elle cherchait pas. Parce que maintenant, on a des hardeuses qui cherchent à être number one.
Ma première interview pour le journal du Hard, on m'avait demandé si je cherchais la célébrité. Et j'avais dit, en fait, moi, je veux pas être connue, je veux être reconnue. Et c'est pas la même chose. C'est d'avoir une reconnaissance du métier, des personnes, d'avoir une certaine valeur pour mon travail. C'est ça qui m'importe. Mais après, la célébrité, franchement, aujourd'hui, n'importe qui fait un selfie en montrant ses seins sur Instagram, ça y est.
À 5 minutes de gloire.
Très vite connu.
AVS, à votre santé. Et Céline Tran est notre invitée jusqu'à 10h. On a lu pour vous, ne dis pas que tu aimes ça. C'est chez Fayard.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h. AVS avec Philippe Robichon.
Céline Tran est notre invitée, Nadia. Hein, aujourd'hui, auteur, scénariste, coach en bien-être et sexualité. Vous publiez Ne dis pas que tu aimes ça chez Fayard. Combien vous avez de vie dans votre vie à vous, alors, donc, à partir d'aujourd'hui? Est-ce que vous les avez comptées? Combien vous avez de vie?
À un moment donné, je me suis amusée à compter le nombre de boulots que j'avais.
Vous n'avez pas été hôtesse de l'air, ça on sait.
Non, mais en plus, j'ai une liste.
C'est vrai? En vrai, je suis sûr que c'est vrai en plus.
Non, mais j'ai une liste surtout des autres choses que je veux faire. Par exemple, en 2021, j'ai une liste de défis à relever. Et il y a tellement de choses que je veux apprendre.
Alors, quoi par exemple? Sur votre liste de défis à relever en 2021?
Dans les listes,
complètement. Alors, ça fait très ninja, mais un truc très con. C'est un rêve de gamine. Je veux savoir faire le grand écart facial en équilibre entre deux chaises, parce que j'ai grandi avec les films de Van Damme, entre autres.
Oui. Et de Bruce Lee.
Ah, Bruce Lee surtout.
Mais je veux savoir faire ça. Et surtout, je veux savoir faire un kick, un coup de pied à la verticale en grand écart.
Donc, vous n'y êtes pas loin d'ailleurs.
J'ai contacté un champion de karaté. Je me suis dit, bon, bah, autant demander au champion du monde. Et du coup.
Vous dites dev perso, autant demander au meilleur.
Ah bah oui.
Mais oui, c'est vrai. En fait, moi, ça m'inspire. Les gens qui excellent dans leur domaine m'inspirent. Du coup, j'ai lancé ma chaîne Twitch qui s'appelle Bien-être et Baston. où je fais des interviews et des lives avec des personnes qui sont expertes en leur domaine. Et ça me permet en plus. Bah, c'est génial parce que ça me permet de bosser et de continuer à explorer à titre personnel. Donc, j'utilise toujours mon boulot pour mon propre plaisir. Et sinon, je veux absolument apprendre à jouer de la guitare.
D'accord.
Il y a des morceaux je me dis ça, il faut, je sais pas pourquoi, j'ai des fixations comme ça, je me dis
c'est Cabrel,
il faut que je sache, faut que je sache le jouer.
Quoi par exemple?
Le solo de Free Birds, qui a l'air bien balèze.
On en reparle, c'est dans un an, on en reparle, d'accord? Vous revenez et on
mais fait, je sais pas pourquoi je l'entends.
On débriefe la to-do list.
Je pourrais me contenter de l'écouter et en fait, je me suis dit, oh non, c'est trop la classe, c'est trop la classe. Et c'est pas grave, peut-être que je mettrai 10 ans à l'apprendre, mais dans 10 ans, je serai. Ou peut-être que je saurai le jouer quand je serai une mamie. Et en même temps, ça sera super classe d'être une mamie qui saura jouer ce solo. Je me dis, c'est. Voilà.
Donc, en fait, vous ne vous mettez pas de limites.
Mais non, mais pourquoi s'en mettre? Enfin, après, les limites, elles. Elles sont fixées en fonction des valeurs qu'on a.
Et alors après, ça, c'est plutôt un cadre, oui.
Ouais. Enfin, voilà, il y a des, il y a des choses que je ne. Il y a quand même des. On a. En fait, j'ai mon code personnel, mais sinon, pourquoi se limiter? En fait, j'ai tellement. alors, c'est très bizarre. Ça peut paraître un peu morbide, mais je me dis toujours que cette journée peut être la dernière.
Non, c'est très réaliste.
oui, voilà, c'est ça. Et puis, moi, il y a souvent une question que je pose, enfin que je me pose quand pour vérifier si je fais ce qui me semble juste. Je me pose la question. Ok, imaginons demain je gagne au loto, je suis multimillionnaire. Donc ça veut dire être, ça veut dire multimillionnaire, ça veut dire bah j'ai en gros je peux faire ce que je veux. Qu'est-ce que je change dans ma vie? C'est intéressant de se poser cette question-là, parce que franchement, quand on se dit ah bah voilà, franchement, si je suis multimillionnaire, je plaque mon mec, je déménage, je quitte tous mes amis, je change de vie. Bon, là, faut peut-être se poser la question est-ce qu'on est vraiment intègre, quoi. Moi, je me rends compte qu'il y a pas grand-chose qui changerait.
Mais alors quoi? Qu'est-ce qui changerait?
Ah bah ce qui est sûr, c'est que je voyagerais, enfin, je ferais le tour du monde.
Vous l'avez pas fait encore?
J'irai directement en Nouvelle-Zélande, par exemple.
Vous n'avez pas fait le tour du monde?
J'ai beaucoup voyagé. Ouais.
Oui, mais je pense pas que vous profitiez.
Je suis pas allée au Japon ni en Nouvelle-Zélande. Voilà.
Là, en tant que ninja, il faut le faire, le Japon.
Voyage.
Hein.
Mais sinon, en termes d'activité, franchement.
J'emmènerai avec moi Céline au Japon.
Voilà.
Alors attendez, parce que Céline, il faut savoir que ça reste entre nous.
Ah oui.
Le livre de Nadia Elbouga vient d'être signé par un éditeur japonais.
Voilà, c'est pour ça que je vous dis.
Mais comme elle a bien choisi, comme elle a bien choisi son année, c'est l'année où on peut pas voyager. Mais sinon, la tournée de promo, elle est compliquée.
Pas ce pouvoir.
Non mais vous rendez compte, assez sous. La sexologue, elle a signé au Japon.
Ah, c'est trop classe.
Non, c'est super classe.
Ah ouais, là, j'avoue que c'est. Là, moi, je dis. Japon, en plus, c'est.
Hors compétition.
Ouais, ouais.
On peut pas lutter.
Ouais. Il faut que je lise d'ailleurs ce livre. Comment il s'appelle?
La sexualité dévoilée.
Ah, ok. Ah, ça m'interpelle.
Ah, vous pouvez. Vous lisez et vous revenez.
Ok. Ouais, avec plaisir.
Entre venus, on se comprendra.
Il y a une expression que vous dites, je ne suis pas tombé dans le porno. Pourquoi c'est quelque chose qu'on vous dit? On vous dit, t'es tombé dans le porno.
Ah oui, j'adore cette expression. En même temps, on dit bien tomber amoureux, mais.
Ou enceinte.
Il y a une idée de déchéance quelque part, mais j'aime beaucoup quand les journalistes me posaient la question, mais comment êtes-vous tombé dans le porno? Et vous, comment êtes-vous tombé dans le journalisme? Oui, parce que ça sous-entend le fait que, à un moment donné, il y a quelque chose qui a foiré. On est tombé dedans. Il y a forcément eu un accident de la vie qui fait que une agression, je sais pas, un abus sexuel, quelqu'un qui a été malveillant et malheureusement c'est le cas pour certaines personnes et
ce n'est pas votre cas.
Je critique pas ces personnes-là, chacun son parcours. Mais moi pour le coup non, ça a été un vrai choix qui a été bien sûr conditionné. Mais tous les choix sont conditionnés.
Il y a une phrase que vous employez que j'aime beaucoup, c'est le porno ne m'a pas imposé sa sexualité, c'est moi qui m'en suis servi pour exprimer la mienne. Alors que finalement, c'est pas du tout l'image qu'on a.
On a toujours une image de la femme qui subit, et c'est bien pratique de considérer la femme comme une petite chose fragile, incapable de faire des choix par elle-même. Pour le coup, je trouve pas ça très féministe. Alors oui, qu'on soit vigilant sur les conditions de travail, bien sûr, il y a dans tous les domaines d'ailleurs, pas que le X. Mais désolée si ça dérange certaines personnes, mais oui, bien sûr, une femme peut aimer ce type de sexualité et en vivre très bien. Et aussi, elle a le droit d'arrêter et d'être qui elle veut ensuite. Parce qu'il y a ça aussi, c'est l'après. Et ça a été un peu le paradoxe. Quand j'ai arrêté, je me suis dit, mais mince, en fait, moi j'ai fait ça justement pour être une sorte de Catwoman et avoir une forme de pouvoir, m'émanciper, me découvrir. Et maintenant que je veux arrêter, on me dit, ah non, 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 tu pourras rien faire d'autre. Je dis, non, mais c'est quoi
C'est la double peine.
Mais n'importe quoi. Je trouve ça génial, les gens qui vous disent, tu ne peux rien faire d'autre. Moi, c'est l'une des phrases qui me motive le plus. J'adore qu'on me dise.
Non, mais il faut comprendre ça.
Ouais. C'est merveilleux, mais c'est. Je trouve que c'est un culot monstre. On a tous des opinions, bien sûr. Je dis pas, moi aussi, j'ai des. Je suis humaine, j'ai aussi mes préjugés. Mais de là à le dire, de là à le formuler, et les réseaux sociaux sont ils sont magnifiques pour ça. C'est incroyable, les gens qui se permettent de vous dire quoi faire et comment. C'est assez fascinant.
Bah parce qu'ils sont experts.
Bah voilà. Donc parfois je leur dis, mais expliquez-moi plus, parce qu'en fait je ne comprends pas. J'aimerais savoir d'ailleurs comment je devrais m'habiller, comment je devrais parler, parce que je ne sais pas. Vraiment, jusqu'à présent, je n'ai rien réussi. Dites-moi comment je dois me comporter.
En tant qu'actrice, vous êtes passée avant les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, en tant que coach, vous êtes avec les réseaux sociaux. Ouais. Et on sait que quand on veut faire votre métier, c'est quand même très important de pouvoir avoir des fenêtres sur les réseaux sociaux. Et bon, comment vous arrivez à gérer ça? Est-ce que vous auriez pu être, par exemple, actrice au moment où, de l'explosion des réseaux sociaux?
Franchement, il y aurait eu Internet aurait été développé. Enfin, de toute manière, moi, quand j'ai commencé, c'était l'avènement d'Internet. J'ai l'impression d'être un dinosaure, mais c'est vrai qu'on
c'était
était encore
débuts,
là-dedans.
Ouais, ouais.
On quittait à peine la VHS pour être en
DVD.
Vous savez qu'on en parlait hier.
Oui,
je
oui,
disais,
oui, oui.
C'est l'époque de la VHS. Et vous vous rendez pas compte
c'était
que
l'époque des sex shops.
Parce que la VHS, avant, il fallait aller dans les cinémas.
Mais oui,
ça a révolutionné.
C'était super excitant, justement. Il y avait une valeur à l'objet, il y avait la transgression, il y avait la rareté. Et donc, moi, c'est ça aussi qui me plaisait. Mais si Internet avait été autant développé, je pense pas que je serais lancée là-dedans. Parce que j'avais pas envie que ça se sache, moi.
Bah oui.
Donc, ça serait maintenant. Non, j'aurais trouvé autre chose. Peut-être que j'aurais fait du karaté, du coup.
Vous seriez revenue au karaté. Ou vous auriez été hôtesse de l'air.
Oui, c'est vrai. Bon, c'était le rêve de la petite fille qui voulait voyager.
L'uniforme, encore, quand même.
Ouais, avoir un bel uniforme. Alors, j'ai été hôtesse de l'air dans certains films. Je me suis rattrapée à ma manière. mais c'était bien aussi. Mais non, moi, ce qui me faisait rêver, c'était d'être Indiana Jones.
C'est une aventurière.
Ouais, ouais, une aventurière. En fait, c'est ça. Quand je me suis
exploratrice.
D'ailleurs, à Sciences Po, je me suis dit, bon, au bout d'un moment, il faut que je trouve une manière de me motiver pour rester dans ces études. Et je me suis dit, ah bah tiens, il y a une spécialisation ensuite pour devenir ethnologue. Donc, j'étais très contente de dire ça à mon père. Et en fait, il a vraiment foiré parce qu'il aurait pu s'en servir pour me motiver, et en fait il m'a dit non, tu feras droit constitutionnel, qui était l'une des matières que je détestais le plus.
Ah ouais.
Mais ça c'est
ça peut se comprendre.
C'est le fameux tact vietnamien. J'aime beaucoup mon père, mais on peut pas dire qu'en termes de communication il soit très doué.
D'ailleurs, vous avez, enfin, quand on vous lit, vous avez toujours eu une posture un peu d'ethnologue,
d'observatrice. Oui, bah ouais, j'aime bien.
Tous vos terrains sont des terrains exploratoires.
Ouais, j'adore explorer. Et la meilleure manière d'explorer et de comprendre, c'est de pratiquer, d'expérimenter.
C'est
donc,
de faire,
je l'ai fait après en école de cirque.
L'exploration participative.
Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. C'est parce que ça passe par le ressenti, on est beaucoup dans l'analyse. Et d'ailleurs, en sexualité, c'est vrai que je trouve ça très bien d'en parler, parce qu'il faut libérer la parole, casser les tabous, échanger, informer. Mais au bout d'un moment, je pense que c'est important de rappeler que la sexualité, c'est une expérience, et qu'au bout d'un moment, c'est à chacun de se la construire, et que c'est aussi toujours une prise de risque. Donc c'est bien de parler. Mais si on ne fait que parler, on n'est que dans les idées, que dans le mental. Et donc aussi dans le jugement. Et donc, donc au bout d'un moment, je pense qu'il faut aussi parfois arrêter de parler et juste faire.
Quel genre de coach sexuel êtes-vous, finalement? Vous recevez des couples? Qui vous consulte? Comment ça se passe?
Alors au départ, c'était beaucoup d'hommes. J'ai de plus en plus de femmes aujourd'hui et j'ai quelques couples.
Quelles sont les questions qui reviennent?
Alors la thématique qui revient vraiment de manière majoritaire, c'est la difficulté à lâcher prise. Pour les hommes, il y a beaucoup un rapport à la performance, dans le travail, dans la sexualité, la peur de ne pas être à la hauteur, la culpabilité par rapport à un certain appétit sexuel ou des fantasmes qu'ils éprouvent, et ils se retrouvent parfois en décalage avec leur compagne. Et les femmes, c'est plus, c'est fou, hein, encore aujourd'hui, on a ça, de la culpabilité par rapport au plaisir. Je sens que j'ai du plaisir, je stoppe, je ne m'autorise pas. Il y a la peur du jugement de l'autre. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de peur. Et ce qui est fou, c'est que je me retrouve à accompagner des couples qui s'aiment énormément, qui ont du désir, mais qui n'arrivent pas à communiquer. Parce qu'il y a toujours cette peur du jugement, quoi.
Est-ce que la pornographie ne contribue pas aussi à accentuer cette peur? Parce que la performance,
ouais,
du côté,
bien sûr,
l'angoisse de performance du côté des hommes,
ça dépend des gens. Parce que certaines personnes vont me dire, moi le porno m'a déculpabilisé, il m'a ouvert à des pratiques différentes, il m'a fait réaliser que finalement, ça va, je me rends compte qu'il y a des gens qui peuvent avoir du plaisir à vivre telle pratique et ça se passe bien, et c'est même plutôt fun, même si je comprends que il y a une différence entre le porno et la réalité, voilà. Donc certains le vivent comme ça et tant mieux, parce que c'est le principe. Mais d'autres, surtout s'ils ont été exposés jeunes ou qu'ils en ont beaucoup regardé, peuvent effectivement développer certains complexes et se dire que il faut nécessairement durer au moins 45 minutes et avoir donc ça, dans ces cas-là, je j'hésite pas justement à leur parler de comment se passe un tournage, des pannes des acteurs, des peurs des actrices, et leur rappeler qu'on est humain et que ça reste un spectacle. Ah, magnifique.
Ça y est, on a perdu.
La musique du final du film The Devil's Reject de Rob Zombie. Très très bon film.
Céline Tran sur Beurre FM. C'est pas tous les jours, hein. Alors on a appris qu'il en restait encore des anecdotes, autant pour faire un tome 2, 3, 4.
Ouh là là,
en tout cas, le premier va de sortir. Ne dis pas que tu aimes ça chez Fayard. Merci d'avoir été avec nous.
Merci de m'avoir accueilli.
C'était un plaisir de vous rencontrer.
Merci
Nadia, on vous retrouve mardi prochain. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous regardez la vidéo de l'émission sur la chaîne YouTube. Très belle journée, santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.